La brochure.
La brochure.
La brochure.
La brochure.
La brochure.
Coucou.
Et bonjour, bien retrouvé. On va commencer à lire la troisième partie de la brochure Les Cinq de Lucasville. Elle parle d'une mutinerie dans l'an 1993 dans une prison dans l'État de l'Ohio, dans les États-Unis. Et on va continuer.
George Skates, 28 ans de prison et ce n'est pas fini. Jackie Bowers sort de George. Il y a 28 ans, George, mon frère, a été inculpé pour meurtre aggravé dans le comté de Logan, Ohio. Bien sûr, il a été condamné pour perpétuité, de 15 ans à perpétuité. Donc, dans le lexique, on parle de peine élastique. C'est décrit comme une peine prononcée aux États-Unis qui peut simplement comporter sa durée minimale, par exemple 10 ans à perpétuité, ou indiquer sa durée minimale et maximale, entre 2 et 5 ans.
La condamnation de mon frère repose sur les mensonges proférés par un homme qui effectuait une peine de 37 à 130 années de prison pour attaque à main armée et kidnapping. Il est clair qu'il voulait sortir de prison et qu'il aurait fait n'importe quoi pour ça.
Quand George a été condamné, vraiment tout le monde pensait que l'appel allait lui rendre justice. Comme nous étions naïfs. Il semble bien que les juges de ce pays n'ont rien à voir avec la justice. La seule chose qui les intéresse est de prouver qu'ils n'ont jamais tort. Jamais. Le système protège le système.
Parlons maintenant du 11 avril 1993. George m'a dit de nombreuses fois que ce jour était le pire de sa vie. C'était les premiers jours de la mutinerie de la prison de Lucasville. 9 détenus et un surveillante ont été assassinés.
George a agi comme porte-parole des détenus. Il a sauvé des vies lors de la mutinerie et de nombreuses personnes en auraient témoigné si on les avait convoqués pour le faire. Mais vu la tournure du procès, vous n'avez pas pu entendre lors du procès tout le bien que George a fait lors de la mutinerie.
Après que la mutinerie se soit terminée, 3 groupes ont été transférés à la prison de Mansfield. Les musulmans, l'Aryan Brotherhood et les Black Gangster Disciples. Là, ils ont commencé à leur mettre la pression. Ils voulaient que des gens, n'importe qui, payent pour l'assassinat du surveillant.
3 parmi les leaders supposés de la mutinerie ont été transférés à la Chillicothe Correctional Institution. Ils ont été placés dans le Mitard Nord. Le Mitard Nord est isolé à 100% du reste du monde.
George faisait partie des 3 supposés leaders qui ont été transférés à Chillicothe. Il ne pouvait pas avoir de visite, des cantines, rien. C'était rien de moins qu'une sacrée pression pour casser ces personnes.
La gendarmerie voulait que George balance. Il n'a pas voulu et il a été inculpé de 3 meurtres.
Pour résumer toutes ces inculpations, vous avez donc un homme inculpé et condamné à mort sur les paroles, et seulement les paroles, des balances des prisons. Seulement leurs paroles, sans qu'elles soient corroborées par des preuves indépendantes et objectives. Ce n'est pas pensable que les témoignages des balances soient considérés comme fiables. Ils disent que la plus haute fiabilité est requise lorsque la peine encourue est la mort. Ne les croyez pas. Ce cas montre que l'on peut condamner, même à mort, avec très peu de preuves et même avec aucune preuve. Les témoignages des détenus dans les 2 cas de meurtre, Elder et Somers, sont tous contredits par les expertises du médecin légiste. Si les juges étaient justes, ils auraient jeté à la poubelle ces inculpations.
L'avocat général a déclaré. L'État lui a dit, à Lavell, « Vous allez me servir de témoin, ou alors je vais revenir et je vais essayer de vous tuer, faire condamner à mort. » Voilà qui s'appelle mettre la pression pour avoir une bonne balance, un détenu qui ment et qui raconte ce que vous voulez qu'il raconte.
Maintenant que je sais comment le système marche, je réalise que c'est possible que le système fasse encore traîner ces dossiers pendant des années et des années. George a 65 ans maintenant. C'est pas facile de lui rendre visite et de voir sa condition physique se dégrader. Je n'ai jamais considéré George comme quelqu'un de faible, mais jusqu'où peut-il tenir? Dans quel état sera-t-il dans 5 ou 10 ans? Comment nous réagirions si nous avions passé les 28 dernières années de notre vie enfermés pour des crimes que nous n'avions pas commis? George sort rarement de sa cellule. Il sort environ une fois par mois pour utiliser le téléphone. Passer 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 dans une cellule ne peut pas faire de bien. Mais d'une certaine façon, je peux comprendre ce qu'il ressent. Il ne se sent tellement pas dans son élément là-dedans. Et ça, je peux totalement le comprendre. Faut que cet enfer sur Terre se termine pour lui et le plus tôt possible.
Quand je rends visite à George, c'est évident qu'il fait tout pour avoir l'air bien. Et tout. Mais je vois au-delà de ça. Au fond, je sais qu'il est en train de mourir de l'intérieur. Il n'a jamais récupéré depuis son passage à Lucasville et toutes les juridictions de ce pays l'ont mis KO. Il a vraiment perdu toute volonté et je crois que dans son cœur, il veut mourir.
George m'a dit plein de fois qu'il pense qu'il va mourir seul dans ces trous rares. Il croit vraiment que les juridictions vont faire traîner son dossier pendant au moins 10 ans. C'est comme ça qu'ils font. Ils ne vont jamais reconnaître qu'ils étaient en tort. Car, pour dire vrai, le système a détruit sa vie. Ils l'ont tué sans tirer un seul coup de feu.
Lors de nos visites et dans nos courriers, on essaie toujours de rester positif, de lui donner de l'espoir. George m'a souvent demandé « Qu'est-ce que je vais faire en sortant d'ici à au moins 70 ans? Dans quelle forme je serai après 30 ans et quelques en prison ?» Voilà les questions qu'il se pose. Essayez de vous mettre 5 minutes à sa place. Signé Jackie Bowers.
Supermax, Bomani Shakur. Si être les pays les plus riches du monde signifie que 50% de la richesse et des ressources ont été accumulées par 1% des plus riches, alors que 30 millions de personnes vivent sous le seuil de pauvreté, alors cette accumulation a quelque chose de criminel. Si les États-Unis étaient les plus libres et les plus riches pays du monde, il ne devrait pas y avoir 2,5 millions de personnes derrière les barreaux. Sans parler ceux en probation et en conditionnel, et il ne devrait pas y avoir besoin des prisons supermax.
Dans son essai « Capitalism and Incarceration », Richard D. Vogel souligne que la pratique répandue de l'incarcération de masse est le résultat de la désindustrialisation de la nation durant les 25 dernières années et de la dislocation sociale et économique que cela a induit, en particulier au sein des minorités. En réfléchissant à cela, on peut commencer à comprendre pourquoi tant de personnes ont été laissées pour mortes dans une sorte de désert économique, où, pour survivre, les économies alternatives, pour reprendre l'expression d'Angela Davis, ont dû être créées. Dans la structure sociale actuelle, les prisons sont devenues là où on jette les pauvres et ceux qui sont devenus inutiles. En fait, ce ne serait pas exagéré de comparer ce qui se passe aujourd'hui avec ce qui s'est passé en Allemagne dans les années 40, lorsqu'Hitler a regroupé tous les Juifs et les a envoyés dans les camps de concentration. La seule vraie différence, et je dois dire que c'est une différence très intelligente, est que ceux qui sont jetés ici sont considérés comme criminels, ce qui, reconnaissons-le, rend l'ensemble du processus plus facile à accepter. Mais de la même façon qu'Hitler a créé une justification de l'incarcération de masse des Juifs, le gouvernement états-unien, en spoliant systématiquement les minorités de leurs ressources, a créé la justification pour l'incarcération de masse de pauvres. La comparaison est parfaite.
C'est durant l'ère Reagan, les années 80, qu'on a commencé à voir la désindustrialisation du pays et subséquemment la prolifération des prisons dans les paysages américains. Et pour remplir ces prisons, le gouvernement états-unien a autorisé à ce que d'énormes quantités de cocaïne soient envoyées dans les villes, voire Dark Alliance de Gary Webb. Ça semble fou, non? Les gouvernements états-uniens ne feraient jamais quelque chose d'aussi funeste. Nous ne pouvons le croire, même si nous savons ce qui s'est passé avec l'esclavage et pour les Africains-Américains dans ces pays. Nous ne pouvons le croire, mais si nous, savons par l'internement des Japonais américains et la quasi-annihilation des natifs américains. Mais voilà, selon Noam Chomsky, si vous avez été bien éduqué, vous ne pouvez pas comprendre les faits comme cela. Même si l'information est juste en face de vos yeux, vous n'allez pas être capable de la comprendre. Et pourtant, les faits sont là.
La population adulte sous contrôle pénitentiaire est de plus de 6,6 millions. Entre 1982 et 1997, les dépenses pénitentiaires ont fait un bond incroyable de 381%. Les dépenses de police ont augmenté de 204% et les dépenses pour le fonctionnement de la justice de 267%. Les dépenses directes liées au système pénal états-unien durant l'ère Reagan, Bush, Clinton ont augmenté de 262%. Le total des frais pour la justice pénale en 1997 a approché 130 milliards de dollars, selon Richard D. Vogel.
Ces chiffres reflètent l'utilisation maximale qui est faite du système judiciaire comme une arme dans la guerre de classe, puisque les fonds qui ont été retirés aux services sociaux et à l'enseignement ont été utilisés pour soutenir l'expansion du complexe carcéral industriel. Comme complexe industriel carcéral, on peut donner cette signification. C'est un terme souvent utilisé aux États-Unis pour désigner les prisons et tout le secteur économique qui prospère grâce à l'industrie de la punition. En d'autres termes, nous sommes arrivés à la croisée des chemins, à un point dans l'histoire de l'humanité où, en tant qu'individu, nous devons décider si nous continuons ainsi ou si nous nous levons et nous disons notre quatre vérités au pouvoir. Howard Zinn a dit « Vous ne pouvez pas être neutre lorsque ça bouge autour de vous ». Eh bien, mes amis, c'est en train de bouger et les prisons Supermax sont comme des signaux routiers qui indiquent dans quelle direction la nation est en train d'aller. C'est une préparation, un test moral, si vous voulez, pour voir si les citoyens états-uniens sont prêts à renoncer et à accepter que certains d'entre eux soient enterrés vivants. Et jusqu'à maintenant, ça sent pas bon.
Plutôt que de s'en prendre aux problèmes qui ont créé les conditions d'émergence de la pauvreté et de la violence, ceux qui sont en position de parler ont conspiré avec ceux au pouvoir et ont décidé d'attribuer aux victimes la responsabilité de leur propre victimisation. Pendant ce temps, les États-Unis ont le taux d'incarcération le plus élevé au monde et l'un des plus hauts taux de toute l'histoire.
Lorsque les générations se pencheront sur cette période de l'histoire de l'humanité, ils se demanderont comment cela a-t-il bien se produire. Pourquoi autant de gens bien se sont tués et ont permis que ceux qui sont attirés par l'argent et les pouvoirs répètent une histoire qu'on sait funeste. Et nous allons devoir leur dire que nous avions peur, que nous avons permis à nos peurs et à notre lâcheté de décider à notre place.
Pendant que je vous écris, je suis dans une cellule du pénitencier de l'État de l'Ohio, écoutant les bruits étranges de ceux qui, comme moi, ont été jetés hors de l'humanité. La majorité d'entre eux regardent le foot, inconscients que leurs jours, comme les miens, sont comptés. De temps en temps, j'entends un cri, mais comme le match est en cours, c'est difficile de savoir d'où cela vient, le jeu, la douleur ou la pression constante qu'ils subissent. J'espère que c'est le match, mais je le sais bien. Je sais ce que cette épreuve leur a fait. Certains ne seront jamais comme avant. Et tous ne sont pas ici pour toujours. Certains rentreront bientôt à la maison, reviendront dans votre voisinage, cassés et usés, et prêts à être violents.
Georges, Bomani, Jason, Hassan et Namir, le 5 de Lucasville. C'est une brève histoire de les cinq qui sont été considérés les leaders. George Cates, dit Big George. George Cates a grandi dans une famille recomposée avec cinq autres frères et sœurs. Il arrête très tôt l'école et, à l'adolescence, commence ses problèmes avec la justice.
Après une première peine, il est libéré en conditionnel en 1970. Mais il est de nouveau incarcéré en 1973 et libéré en 1975. Il décide alors de se tenir loin de la prison. Il change de style de vie, se marie et a un fils. Mais après 7 ans de vie tranquille, il commet, avec un certain James Rogers, plusieurs vols à main armée. Quelques mois après ces braquages, un commerçant, Arthur Smith, est assassiné.
En échange de l'immunité pour 15 vols à main armée et d'une recommandation pour la commission de libération conditionnelle, Roger incrime George pour le meurtre d'Arthur Smith. George, dont les moyens de défense sont très réduits, est condamné à la perpétuité. Il est maintenant assez clair que cette première condamnation était fondée sur des témoignages truqués.
Quand la mutinerie éclate, George est en train d'écrire aux jurés qui l'ont condamné à perpétuité. Lorsque les mutins ouvrent les cellules du quartier L, George, comme beaucoup d'autres, sort dans la cour de promenade. Puis, comme d'autres, notamment Jason Robb et Keith Lamar, il rentre dans le bloc, préoccupé de sauvegarder son dossier. De plus, dans son aile, se trouvaient des détenus à qui il devait beaucoup, lorsqu'il avait fait appel de sa condamnation à perpétuité, il se trouvait au mitard et des co-détenus s'étaient chargés de cet appel qu'il ne pouvait pas effectuer lui-même.
Membre de l'Aryan Brotherhood lors de la mutinerie, George a participé aux négociations avec les autorités, notamment au moment précis où le surveillant Robert Vallandigham était assassiné. Il a été condamné à mort pour le meurtre de celui-ci.
Bomani Shakur, nom officiel Keith Lamar. Keith a grandi dans un quartier pauvre, avec un beau-père violent et une famille confrontée à de grosses difficultés matérielles. Adolescent, Keith commence à consommer des produits stupéfiants, notamment du crack, arrête l'école et part du domicile familial pour vivre avec des amis dans un des quartiers ayant la pire réputation de Cleveland. C'est là qu'avec son beau-père, il s'initie au trafic de stupéfiants.
En 1989, il est arrêté après avoir tué un ami d'enfance, dans une situation d'autodéfense, alors qu'il vendait des stupéfiants. En prison, il lit l'autobiographie de Malcolm X, étudie l'histoire africaine-américaine, le mouvement révolutionnaire noir, et il s'est converti à l'islam.
Lorsque la mutinerie éclate, Bomani est dans la cour de promenade. Il découvre ensuite que sa cellule a été utilisée pour y garder des détenus ayant la réputation d'être des balances. Bomani quitte alors le bâtiment et fait partie des détenus qui se rendent spontanément aux autorités dans les premières heures de la mutinerie. Il a été condamné à mort pour avoir organisé un escadron de la mort qui aurait tué, au début de la mutinerie, 5 balances, puis un détenu avec lequel il se trouvait, avec 8 autres co-détenus, la première nuit après sa reddition.
Un petit extrait d'un autre livre. Donc, si on croit l'État, j'ai tué parce que j'étais bloqué à l'intérieur et que je ne voulais pas être mêlé à la mutinerie. Ainsi, afin de ne pas être mêlé à cette histoire, j'ai fait la chose qui allait forcément m'y mêler. Et après, quand j'ai réussi à sortir de là et que le danger était écarté, j'ai soi-disant de nouveau tué, m'enfonçant moi-même davantage. Ça fait sens ?
Jason Robb. À 14 ou 15 ans, Jason devient un consommateur régulier d'alcool et de produits stupéfiants. À 17 ans, alors qu'il est sous l'emprise de divers produits, Jason tue un homme. Il est condamné à une peine de 7 à 25 ans de prison. Il rentre à l'Aryan Brotherhood qui l'encourage à reprendre ses études et lui permet d'accéder à la salle de sport et d'avoir du travail. Jason est transféré à la prison de Lucasville en 1991.
En 1993, il avance 5 ans. Il représente l'Aryan Brotherhood durant la mutinerie et il prend le relais de George dans les négociations avec les autorités. Il a été condamné à mort pour le meurtre du surveillant Robert Vallandigham. Il fait toujours partie de l'Aryan Brotherhood, mais il ne se considère pas comme un suprématiste blanc. Il écrit rarement à l'extérieur, mais il fait des dessins comme celui qui se trouve en couverture de cette brochure.
Siddiq Abdullah Hassan, nom officiel Carlos Sanders, connu sous le surnom Hassan. La mère d'Hassan a eu son premier enfant à 13 ans. Lorsqu'il est encore très jeune, elle se retrouve seule avec 4 enfants et elle est confrontée à de graves difficultés financières. Elle décède quand Hassan a 7 ans. Repris par son père, Hassan subit des violences de celui-ci et doit même se protéger de lui avec une arme à l'âge de 8 ans. À 10 ans, il est placé dans une famille d'accueil, puis il retourne dans sa famille. À 12 ans, il est arrêté avec son frère pour le cas d'une armurerie. Jusqu'à ses 20 ans, il est incarcéré dans différentes institutions. Lorsqu'il sort de prison en 1983, sa seule source de revenus est le trafic de stupéfiants. Il est de nouveau arrêté l'année suivante pour un vol de voiture à main armée.
En prison, il entreprend des études. Il devient musulman pratiquant et, à partir de 1991, il occupe les fonctions d'imam auprès de ses co-détenus.
Lorsque la mutinerie éclate, il a 30 ans. Il occupe une cellule dans une partie de l'aile réservée aux détenus de confiance, ce qui n'est pas synonyme de balance, et il allait être transféré dans une autre prison. Il lui restait 10 mois avant de comparaître devant la commission des libérations conditionnelles. Il a été condamné à mort pour le meurtre du surveillant Robert Vallandigham.
Namir Abdul Maten, nom officiel James Ware, surnommé Namir. Incarcéré très jeune, il est libéré en conditionnel en 1980. Il s'est marié, a deux enfants, une fille et un garçon, mais il est de nouveau arrêté et il est condamné pour vol à main armée. En prison, il devient musulman et il occupe les fonctions d'imam auprès de ses condétenus. Lors de la mutinerie, il lui restait 4 ans avant de pouvoir passer devant la commission de libération conditionnelle, mais il avait obtenu de quitter la prison de Lucasville pour celle de Mansfield, un établissement d'un niveau de sécurité inférieur.
Il a été condamné à mort pour le meurtre du surveillant Robert Vallandigham.
On est à la fin de la brochure. On voudra lire quelques mots écrits pour ceux qui ont traduit la brochure en français.
Écrire aux prisonniers, prisonnières, ABC Dijon. Écrire à des prisonnières peut paraître très difficile, surtout lorsque l'on écrit pour la première fois à quelqu'un qu'on ne connaît pas. On a souvent l'impression de ne pas savoir quoi dire ou le sentiment que ce que l'on va écrire ne va pas intéresser les personnes incarcérées. La plupart d'entre nous y ont déjà été confrontés et ont dû surmonter cet obstacle. Voici donc quelques suggestions pour vous aider. Chacune a sa propre manière d'écrire et rien ne vous oblige à suivre ce petit guide à la lettre, mais vous pourrez probablement y trouver des informations utiles.
Certaines prisons limitent le nombre de lettres quand aucune prisonnier ou prisonnière peut envoyer ou recevoir. L'achat des timbres et des enveloppes peut également représenter un problème étant donné que les détenus sont souvent pauvres. Ne vous attendez donc pas forcément à recevoir une réponse. Certaines prisons autorisent l'envoi des coupons-réponses internationaux ou des timbres, mais il vaut mieux vérifier auprès de l'administration pénitentiaire ou avec les prisonniers. Les courriers sont souvent interceptés, ouverts, lus, retardés, égarés. Si vous pensez qu'une lettre a été ou sera interceptée, vous pouvez envoyer le courrier en recommandé, ce qui garantit au moins que la lettre sera ouverte en présence de la ou du détenu. Nous vous conseillons également de dater vos lettres, de noter tout ce que contient votre enveloppe et d'écrire une lettre auprès du directeur de la prison en cas de confiscation de quelque chose. N'oubliez pas d'écrire l'adresse de l'expéditeur, car c'est obligatoire dans les certaines prisons. Vous pouvez utiliser une fausse adresse, mais dans ce cas-là, la prisonnière ou le prisonnier ne pourra pas vous répondre. Attention, certaines prisons n'acceptent pas les boîtes postales.
Si vous écrivez pour la première fois, présentez-vous. Précisez éventuellement de quelle façon vous avez entendu parler de son incarcération.
Si vous écrivez à un prisonnier ou une prisonnière politique que vous croyez innocent et innocente, faites-le lui savoir. Cela peut mettre le détenu ou la détenue en confiance.
En ce qui concerne les personnes emprisonnées des suites de luttes radicales, il est primordial de les informer sur la poursuite des mouvements à l'extérieur, de leur parler des actions, campagnes en cours, de leur envoyer des publications qui pourraient les intéresser, de parler avec elles, eux, de théories ou de stratégies. Cependant, réfléchissez bien à ce que vous direz. Certaines prisonniers, prisonnières, ne demandent qu'à oublier tout cela et à purger leur peine.
Si vous voulez les soutenir ou si vous lui proposez d'entamer une campagne de libération, soyez très clair sur ce que vous pouvez faire. N'exagérez pas. Vous pouvez apparaître comme une immense lueur d'espoir à un prisonnier ou à une prisonnière incarcérée pour de nombreuses années. L'espoir est important, mais n'en faites surtout pas trop car, à l'envers, vous pourrez sérieusement décevoir et déprimer la personne.
Certaines personnes, lorsqu'elles écrivent à des prisonnières, craignent de parler de leur propre vie, de ce qu'elles font, en pensant que cela pourrait déprimer ou tout simplement ne pas intéresser ses détenus incarcérés pour une longue période. Cela pourrait peut-être s'avérer vrai dans certains cas, mais la plupart du temps, l'arrivée d'une lettre est le meilleur moment de la journée. La vie en prison est caractérisée par l'ennui et la routine, et des nouvelles de l'extérieur, provenant de gens que le prisonnier connaît ou non, sont généralement les bienvenues. Attention au contenu des lettres qui pourraient attirer des ennuis aux détenus et à vous-même. L'arrivée d'une réponse de la part de la ou du prisonnier, prisonnière, vous réchauffera sûrement le cœur. Donc écrivez!
Quelques mots en plus. Il est possible d'envoyer aux personnes incarcérées aux États-Unis un courrier par le système JPay, qui permet aussi des vidéoconférences si la personne y est autorisée, ou d'envoyer de l'argent. Les courriers arrivent à la prison le jour même et maximum le surlendemain, mais les contrôles du courrier peuvent prendre plusieurs semaines dans certains cas.
Il faut s'enregistrer, ce qui est gratuit, ne prend que quelques minutes et nécessite seulement une adresse mail sur le site www.jpay.com. Il faut ensuite entrer le nom de l'État dans lequel la personne est détenue. Pour les 5 de Lucasville, c'est l'Ohio. Et le numéro d'écrou, à 6 chiffres, sans espace ou autre signe. Apparaît alors une page classique d'envoi de mail.
Le service coûte à peu près 0,60€, mais il faut payer autour de 0,60€ pour chaque photo ajoutée au courrier. Et il permet également d'envoyer des timbres à la personne incarcérée. On peut également recevoir des courriers des prisonniers par ce système. Le paiement doit se faire par carte bancaire.
Même si le service est plus rapide que la traditionnelle poste et que dans certains cas, il permet de gagner un temps précieux, on trouve que le courrier est plus sympa et qu'il vaut mieux éviter de faire prospérer l'industrie de la punition. Pour les États-Unis, le timbre est à 0,98€ pour une simple lettre.
Les lettres de soutien aux 5 de Lucasville sont les bienvenues. Certaines ne répondent quasiment jamais. On peut être solidaire des 5 de Lucasville sans approuver toute leur opinion politique, passée ou actuelle, ou les choix qu'ils ont faits d'appartenir à telle ou telle gang. Écrire à des prisonniers est simplement un geste de solidarité avec des victimes de la répression, ni plus ni moins.
Les prisonniers privés de contact humain, pendant de longues périodes, demandent souvent à recevoir des photos de leurs correspondantes. Cela les aide à réaliser qu'ils échangent avec de vraies personnes.
Eh bien, merci pour l'écoute. Je trouve que c'est vraiment dur lire l'histoire de toutes ces personnes-là qui ont complètement perdu leur liberté. Et on vous donne une adresse, mais on n'est pas sûr qu'elle soit bonne. En théorie, George Cates, il est au Chillicot CI, que c'est les pénitentiaires où il se retrouve. Kate Lamar, il se trouve à l'Ohio State Penitentiary. Jason Robb, dans les mêmes, Ohio State Penitentiary. Hazan, pareil. Et encore dans les mêmes établissements de la morte, il se trouve Namir. Merci et à la prochaine.
Bonne semaine.